RMC Running, le cabinet de Maître Yodu.
Salut à tous, bienvenue donc dans ce cabinet du Maître Yodu, le nouveau podcast d'RMC Running. Vous le savez, RMC Running destiné à tous les passionnés de la course à pied. On profite de ce podcast tous les jeudis pour ouvrir le cabinet. Le grand Johan Durand est avec moi, il est prêt à accueillir son nouveau patient. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît.
Ça va docteur?
Prêt à accueillir, c'est bon.
J'ai envie de te dire.
Ouais, c'est bon, tout est ok.
Quoi de neuf docteur?
Quoi de neuf docteur? Oh bah écoute, ça roule tranquillement. En plus, ça va être une consultation depuis le soleil, donc écoute, je vais pas me plaindre. Hein.
Bon, magnifique. Si vous voulez des nouvelles de Johan, il y a le journal de bord aussi tous les débuts de semaine. Vous savez comment s'est passé sa semaine dernière. Merci à tous pour le soutien sur les réseaux. Continuez à laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, s'il vous plaît. Deezer, Apple, Spotify. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Comme ça nous aide à grandir. Le troisième épisode donc du cabinet du Maître Yodu, je vous rappelle ce concept simple, vous venez à raconter votre histoire personnelle dans RMC Running, vous nous faites part de vos problématiques et vous avez un échange rien que pour vous. Le Dr Love, Maître Yodu, rien que pour vous, il répond à toutes vos questions, diffusion tous les jeudis. Si vous voulez postuler, les candidatures à l'adresse mail suivante, podcast@rmcrunning.
Ça afflue.
@gmail.com. Il y a beaucoup de candidatures. C'est dur de faire le tri. Rassurez-vous, il y a 52 jeudi dans une année. Donc on aura le temps. On aura le temps d'en traiter pas mal. Allez, on y va, Yodu, puisque Nicolas patiente en salle d'attente. Salut Nicolas.
Bonjour, enchanté.
Salut Nico.
Eh ben, enchanté également. Comment ça va?
Ça va très bien, bonjour à Maître Yodu.
Ah, et bah écoute, on est ravis de t'accueillir. Ouais. On vous annonce d'ores et déjà que c'est une histoire bouleversante et passionnante qui vous attend. Nicolas, question toute simple et qui va planter le décor, pourquoi tu cours alors?
Moi je cours pour changer le regard sur le handicap, voilà, je me dépasse au quotidien, aussi pour susciter voilà, des vocations, même envers les personnes valides, parfois le public ou... Voilà, les gens qui me croisent lorsque je m'entraîne pour leur donner envie de se dépasser, puis voilà, pour leur montrer que c'est la meilleure des thérapies pour se reconstruire, en tout cas pour ma part.
On vous raconte cette histoire dans un instant, juste après ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
T'as quel âge aujourd'hui, Nicolas?
Aujourd'hui, j'ai 41 ans.
Et tu cours depuis que t'as quel âge?
J'ai fait un peu de sport quand j'étais jeune, j'étais champion de France de 100 hauteurs. Bon, après j'étais jeune sapeur-pompier, des choses comme ça, mais j'ai recommencé vraiment la course à pied il y a seulement 3 ans. Ouais.
Tu cours combien de fois par semaine?
Je cours 5 fois par semaine, je m'entraîne tout seul, j'ai pas vraiment de coach, donc ni de club. Étant en e-sport, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour trouver un club spécifique, mais... aujourd'hui, je m'entraîne tout seul, donc je m'entraîne surtout au volume depuis que je cours. Donc je fais des sorties de 20 km à chaque fois. Ouais.
Ah, donc ça représente environ 100 km semaine quand même.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Quelle est la dernière course que tu as disputée?
La dernière course que j'ai faite, c'était à Montpellier, c'était le Nature Marathon Man. Ouais.
Ok, et la prochaine, ce sera quoi alors?
Je vais aux 24 heures de Vigneta courir pour un chacun une course à Ajaccio qui vise à sensibiliser autour des difficultés pour les personnes handicapées à pratiquer un sport et puis essayer de lever des fonds pour financer du matériel de sport. Ouais.
Eh ben, magnifique action. Nicolas, sache qu'on est ravis de t'accueillir donc dans RMC Running. Obligé de raconter cette histoire qui démarre par un drame, un accident de la route qui, malheureusement, va t'amputer de deux de tes membres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Oui, ben, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Et donc, je partais pour aller travailler. J'étais en moto. Je travaillais dans une usine sur Bordeaux. En intérim, et donc c'était le soir, il était 26 février à 20h30, et donc je roulais, il pleuvait un petit peu, donc je roulais tout doucement sur une départementale, et puis un véhicule est arrivé en face et s'est déporté sur ma voie, comme parfois certaines personnes manquent d'attention sur ce qui peut se passer sur la route, et donc la voiture s'est déportée sur ma voie, j'ai tenté de l'éviter en couchant ma moto, mais malheureusement mon bras et ma jambe gauche ont fait opposition avec le véhicule, ce qui m'a arraché le bras sur le cou et la jambe en partie aussi. Ouais.
Tu es donc malheureusement bi-amputé du bras gauche et de la jambe gauche. Raconte-nous ce qui se passe quand l'accident arrive, parce qu'une personnalité connue du grand public va t'aider, non pas pour la gloire et la notoriété, mais juste par humanisme. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ?
Ben, par chance, voilà, ce soir-là, bon, les personnes qui m'ont percuté ont décidé de prendre la fuite. Ils sont, voilà, ils ont mis un coup de volant, ils ont coincé leur voiture, une roue dans le fossé, donc le véhicule est resté sur place, leur voiture, et donc ils sont partis à pied. Ils ont appelé des amis pour venir les chercher. Bon, m'ont laissé là pour mort sur la route. Moi, j'étais encore conscient, et donc derrière moi se trouvait un 4x4 Q7 qui est arrivé. Et, donc lui a vu un éclat de lumière dans la nuit. C'est une route au bassin d'Arcachon chez nous qui est très accidentogène parce qu'elle n'est pas du tout éclairée. Et donc dans le noir, il a vu un éclat de lumière. Il a mis les pleins phares. Il m'a vu là assis au milieu de la route. J'étais encore sur la chaussée. Et donc il s'est dit qu'il fallait absolument intervenir, sinon une voiture n'allait pas me voir et finir par m'écraser, finir le travail. Donc mais il se trouve que c'était Pascal Obispo. Voilà, c'est une personne qui est très connue chez nous au bassin d'Arcachon. Ouais. Voilà, il est originaire de chez nous, il habite chez nous, donc il se rendait à l'aéroport. Et donc quand il a vu ça, il a vu une personne comme ça assise sur la route. Il a garé tout de suite son véhicule et il s'est dit, bon, il faut que je le déplace, que je le mette en sécurité, que je prévienne les pompiers. Donc il m'a ramassé, il m'a traîné, puis déposé dans le fossé sur le bas-côté, ramassé mon bras qui lui était déjà arraché, puis a prévenu les pompiers pour qu'ils interviennent le plus vite possible.
Ouais. Histoire forte, histoire lourde. Est-ce que tu connaissais cette histoire, Johan, ou est-ce que tu la découvres quand tu l'entends, quand t'entends Nicolas raconter ?
Ouais. Non, je découvre le profil de Nicolas. Et
est-ce que tu connais le coin, Johan, parce que c'est pas loin de chez toi ? Bassin d'Arcachon, ce type de route.
Oui, moi je m'entraîne, certainement que je dois connaître la région, mais je connaissais pas du tout l'histoire et tu vois, je connaissais pas non plus, je connais pas Pascal Obispo personnellement, mais l'histoire là que nous raconte Nico est quand même assez dingue et il faut saluer l'acte de Pascal, parce que c'est vrai que ça peut paraître logique, mais quand tu vois que les gens font un délit de fuite et sont partis, bah voilà, qu'une personnalité comme ça s'arrête et aide Nico, c'est quand même assez, assez touchant aussi, quoi.
Ensuite, il y a tout le processus. Nicolas, on salue le geste de Pascal Obispo. Ça a fait naître une relation très forte entre vous. Vous avez même coécrit une chanson, d'ailleurs, qui rassemble un peu cette histoire, qui vous a lié et soudé encore un peu plus, d'ailleurs.
Oui, voilà. Bon, pendant quelques années, voilà, moi, c'est les gendarmes qui m'ont appris quelques mois après, une fois que je suis sorti du coma, puis j'ai pu sortir de l'hôpital, j'ai eu le droit d'une sortie pour aller faire mon audition. C'est les gendarmes qui m'ont appris que c'était Pascal qui m'avait sauvé. Et donc, moi, j'ai juste dit de les remercier. J'ai pas cherché à rentrer en contact avec Pascal. J'ai demandé s'ils avaient ses coordonnées, de même le faire pour moi. Et il s'en est suivi les années après. Et puis, un an après, les Girondins de Bordeaux ont été champions. Gagné les trois titres en 2009. Et donc, j'ai demandé à ma compagne de m'emmener à la place des Quinconces pour la présentation de la Coupe. Et il se trouvait avec les joueurs à ce moment-là. Pascal Obispo qui descendait du bus. Vu que son papa était un ancien joueur des Girondins de Bordeaux.
C'est folle, cette histoire.
Ouais. Et donc ma compagne m'a dit, oh, tu veux que je l'appelle ? Je dis, bah, appelle-le, mais peut-être qu'il ne se rappelle pas de moi, ou voilà, il n'est pas disponible. Et donc il est venu vers moi, et puis moi en larmes, je lui ai dit, merci, vous m'avez sauvé la vie. Et donc il a compris tout de suite que c'était moi. Même lui, bon, n'était pas trop au courant de la suite de l'accident, parce que bon, mais il était dans son rythme de vie, mais il n'a pas contacté les hôpitaux pour savoir où est-ce que j'avais été transféré ou si j'avais survécu. Donc pour lui, c'était vraiment un questionnement et c'était une surprise de me voir devant lui.
Et oui, c'est une réponse que tu lui as apportée qui a dû le toucher au plus profond de son cœur, parce que c'est un geste d'humanité qu'il a eu. Après, il n'a pas eu la suite de l'histoire, mais te voir face à lui comme ça, ça a dû lui faire le bouleverser.
Avec ta famille.
Ah, c'est sûr.
Ouais, c'était un moment très émouvant et c'est vrai que bon, mais il m'a dit, voilà, il n'y a pas de hasard, certainement qu'on a quelque chose à faire ensemble, donc il faut que, si tu es d'accord, qu'on lit une correspondance et puis qu'on échange, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, et voilà, c'est quelque chose dont j'ai très peu parlé autour de moi, et donc il m'a donné son numéro de téléphone et puis son mail, et puis on a commencé à tisser une correspondance. Moi, les années qui ont suivi, tout de suite, j'ai découvert un monde du handicap dont on parle très peu, là où il y avait beaucoup de choses à faire déjà en 2019. Et donc, je me suis tout de suite engagé, moi, auprès des mairies, que ce soit Bordeaux ou Bouscat, à recenser la ville en entier, les bâtiments publics, les villes, les rues et tout ça, pour leur donner un rapport sur l'aménagement que je pensais nécessaire pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et puis, bon, j'ai créé des associations aussi pour récolter des fonds, aider des enfants malades, réaliser des rêves de personnes avant qu'elles partent, voilà, accompagner des gens jusqu'à la mort. Je me suis investi en me disant que peut-être que si j'avais été touché, voilà, pour moi, par le handicap, c'est que j'avais quelque chose à faire dans ce monde et que
voilà. Tu te sens en mission, quoi, quelque part. Mmh.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand je me suis réveillé du coma, la première chose que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas seul à souffrir et que je vais aider les gens dans les situations pires que moi. Et pourtant, j'avais un drap au niveau du cou, j'étais attaché au lit avec des appareils respiratoires dans la gorge et je voyais pas du tout mon corps. J'étais attaché, je pouvais pas voir mon corps. J'avais seulement un bras qui était détaché, le bras droit. Et donc, j'avais demandé un papier, un stylo à ma famille parce que je les voyais terrorisés dans leur regard. Et pour moi, c'était important de les rassurer. Et donc, je me suis raccroché à cette phrase en me disant, bon, si j'ai dit ça, c'est peut-être qu'au fond de moi, je savais déjà que ma reconstruction passerait par là. Alors, et donc, au bout de presque 10 ans, Pascal me dit, tu n'as cessé de me donner des leçons de courage à travers ton parcours et ce que tu as fait. Et donc, il dit, j'aimerais beaucoup écrire une histoire sur l'homme que tu es, notre rencontre, si tu m'autorises. Donc, je lui avais écrit quelques lignes pour inspirer, pour les paroles de la chanson. Et,
la chanson, c'est « On n'est pas seul sur Terre, hein, sur la Terre ».
Voilà, « On n'est pas seul sur la Terre », voilà. Me dit un jour l'homme de fer, c'est ce que dit le refrain. Et l'homme de fer, c'est comme cela qui m'appelle.
C'est toi. Depuis,
et donc, c'est resté maintenant. Mais voilà, pour dire « On n'est pas seul à souffrir » et qu'il y a toujours pire que soi, il faut relativiser. Et qu'on n'est pas seul sur la Terre, qu'il y a encore beaucoup d'amour et de solidarité dans ce monde. Et qu'il y a toujours quelqu'un autour de nous qui va nous tendre la main si... on reste positif, voilà. Donc au bout de 10 ans, on a fait ça. Moi, j'ai écrit quelques lignes pour l'inspirer pour la chanson. Et puis il m'a dit, bon, je pense que tu devrais écrire un livre et moi une chanson. Et puis donc on s'est donné 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a sorti ça. Lui a sorti la chanson « On n'est pas seul sur la Terre ». Et j'ai sorti donc le livre aux éditions Flammarion « On n'est pas seul sur la Terre ».
Nicolas, question particulière. Aujourd'hui, tu cours pour toi, tu cours pour les autres ou tu cours pour tout le monde, toi et les autres?
Je cours pour les autres, ouais. Bon, au début, je courais pour moi. Maintenant, je cours beaucoup pour les autres, voilà. Pour moi, c'est important de...
C'est une sorte de message d'espoir pour tous ceux qui sont frappés comme ça par les épreuves de la vie et par le handicap.
Voilà, c'est ça, essayer d'accompagner, d'aider, de montrer aux gens que malgré un handicap, malgré la maladie, même parfois, on l'a vu à travers certains coureurs professionnels qui se relèvent d'un cancer, par exemple, voilà, grâce au sport, que le sport est le meilleur des médicaments. Voilà, moi, pendant presque 15 ans, j'ai pris 14 antidouleurs par jour. Donc, les médecins me disaient que c'était impossible d'arrêter. Ouais, j'étais... à des doses maximum proches de l'overdose parfois. Et donc la course à pied, grâce à ça, j'ai commencé moi-même tout seul une sorte de thérapie pour m'habituer grâce à l'endorphine et puis le fait d'être occupé aussi psychologiquement par la course à pied, la passion, de penser moins à la douleur et de réduire mes médicaments. Ça m'a permis aujourd'hui de prendre seulement 3 médicaments par jour. Ouais. Donc j'essaie de donner de l'espoir même aux personnes... voilà, qui sont victimes d'accidents, leur dire voilà, la vie sera peut-être différente, mais elle peut être encore plus belle. Et c'est surtout le regard qu'on a sur le handicap à travers le sport. Moi, je trouve ça magnifique. On n'a pas dans la société de tous les jours.
T'as raison.
Les gens ont toujours un petit peu peur de nous aborder dans la rue ou nous dire bonjour, voilà, par peur de nous déranger, qu'on soit dans notre combat. Mais lorsque j'enfile cette lame de course, à chaque fois que je vais sur les marathons, sur les courses... les gens sont tellement stupéfaits que cette barrière se brise tout de suite et ils ont besoin de venir vers moi, de me taper sur l'épaule, me remercier d'être là. Et ça montre que voilà, on n'est pas forcément toujours des gens à plaindre, qu'on peut aussi donner de l'espoir, donner un second souffle à des personnes qui, à première vue, n'ont aucune difficulté. Ouais.
C'est vrai, Johan, c'est un paradoxe fou. Le regard des gens sur le handicap au quotidien et le regard des gens sur le handicap dans le sport, notamment la course à pied avec les handisports qui sont totalement acceptés. Alors je ne dis pas que les choses sont parfaites et qu'on ne peut pas aller plus loin, forcément, mais il y a des choses qui sont mises en place sur les grandes courses, notamment en France. Pas mal d'handisports, notamment sur les grosses courses populaires comme le Marathon de Paris, par exemple.
Ouais. Mais pas assez, je trouve aussi.
Pas assez aussi. Il y a une démarche qui est faite, mais ce que je veux dire, c'est que les spectateurs qui viennent ce jour-là au bord des routes, par exemple à Paris, sont fascinés d'ailleurs par ces parcours de vie. Et c'est vrai que le regard, il y a de l'admiration dans ces moments-là, alors que parfois il y a de la tristesse et un peu de gêne, comme l'a dit Nico, dans la vie quotidienne. Ça, c'est le paradoxe du sport quand même.
Le sport, je pense, c'est quand même une arme, une puissante arme de reconstruction. Hein. Comme il l'a dit, c'est tu as l'impression de devenir quand tu es sportif et encore plus quand tu es sportif avec un handicap, tu as l'impression d'avoir presque comme un super-héros, tu vois, d'avoir quelque chose en plus. Et c'est vrai que du coup, les spectateurs, effectivement, ils ont tendance à peut-être, comme tu le dis, à regarder davantage le sportif, d'être impressionné par la performance. Effectivement, ils sont à 200% derrière, et c'est vrai que c'est peut-être pas le cas tous les jours. Mais voilà, c'est ce qui fait la puissance du sport et c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est qu'on peut se reconstruire grâce à ça, grâce à ce dépassement de soi. Et je trouve que justement, les courses en général, comme le marathon de Paris, tu l'as dit, devraient encore plus prendre conscience de ça et avoir des pelotons encore plus étoffés de coureurs handis, parce que c'est l'exemple type de quelqu'un qui s'est reconstruit grâce au sport et qui est devenu certainement une autre personne grâce à ça, quoi.
Là, il y a encore beaucoup de routes, beaucoup de chemins, mais le tracé est lancé. C'est ça que je voulais dire, Nicolas. Je ne sais pas si tu le ressens, mais...
Je pense que la plus grosse barrière aujourd'hui, c'est vrai que j'avais fait quelques interviews, même pour le semi-marathon de Paris, tout ça. Et ils avaient voulu faire un reportage sur le handisport, le développement du handisport après les Jeux paralympiques, l'impact que ça avait pu avoir au sein des clubs d'athlétisme. Ouais. Mais malheureusement, ils ont mis un terme parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas eu un essor si grand.
C'est bien de le dire.
La plus grosse barrière qui puisse exister aujourd'hui, il faut le savoir, parce que on parle aujourd'hui des chaussures de sport qui sont très chères. Et est-ce que c'est légitime ou pas, de la part des marques. Mais quand on le dit aux personnes que pour courir avec une lame de course, c'est 10 000 euros.
Avec un pourcentage pris en charge ou pas du tout? Comment ça se passe d'ailleurs?
Non, il n'y a pas de prise en charge aujourd'hui qui existe. Moi, c'est pour ça que je cours. L'année dernière, je m'étais fixé l'objectif de faire 10 marathons dans l'année pour sensibiliser à la prise en charge par la sécurité sociale des prothèses de course. Ouais. Et finalement, j'en ai fait 12 en voyant qu'il n'y avait aucun intérêt de la part des politiques. Donc, j'ai continué dans mon challenge. Bon, ça n'a pas porté les fruits que j'aurais espéré, mais je reste confiant, je continue mon combat.
Mais ça, c'est un vrai combat à mener, tu as raison, et c'est peut-être ça la clé. C'est l'accès aux aides pour les personnes en situation de handicap qui veulent comme ça pratiquer du sport, mais ça doit être fondamental, parce que dans la reconstruction psychologique, le sport a un rôle déterminant, c'est sûr.
Ah oui.
Puis surtout, nous, c'est 10 000 euros, mais quand on voit les handisports en fauteuil qui sont au Marathon de Paris, par exemple, c'est des fauteuils à 50 000 euros.
Bien sûr.
Et quand on compare les dotations pour des athlètes élites et les dotations pour un athlète handisport, on est à peine 10% de ce que touche un athlète élite. Et on sait qu'il engage un fauteuil quand même à 50 000 euros sur une course, avec toute la logistique qu'il y a autour pour se déplacer, pour transporter son matériel et tout ça.
C'est quoi la durée de vie d'une lame carbone, Nicolas, pour toi?
La durée de vie est infinie. Elle dure, c'est juste l'emboîture au niveau du moignon qu'on modifie parce qu'on maigrit, on grossit et tout ça. C'est juste ça, mais après, la lame carbone, elle dure tout le temps.
Mais c'est encore plus important à dire, parce que ça veut dire qu'une fois que l'investissement est fait, à part en cas de casse ou de problème qui peut arriver, normalement, votre matériel peut durer ça, c'est pas un gadget, quoi, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, et puis ça encouragerait aussi les clubs handisport à se développer beaucoup plus. Je vois, moi, sur les marathons, je suis souvent seul. J'aimerais bien qu'on soit plus.
Bien sûr.
Et je connais des personnes amputées comme moi qui aimeraient bien reprendre le sport, mais aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, ton inscription va te coûter 10 000 euros, il réfléchit tout de suite. Moi, c'est ce qui m'a empêché pendant... pendant toutes ces années, moi, à courir, c'est que je ne voulais surtout pas financer cette lame de course. Je me disais qu'on était en France et qu'il y avait forcément un moyen pour pouvoir se la faire financer. Donc, j'avais fait, moi, le marathon de Paris il y a 3 ans. C'était mon premier marathon. Je n'avais aucune préparation. J'étais parti comme ça sur un coup de tête et j'ai parti comme ça. On m'avait prêté une lame de course et bon, sur un coup de tête, bon, à 20 km de l'arrivée, j'étais complètement en sang, mais j'ai continué jusqu'à l'arrivée. Puis j'ai fait 6 heures, mais ça avait touché beaucoup les prothésistes qui avaient dit « Ah oui, c'est incroyable la volonté que tu peux avoir de te lancer tout de suite sur un marathon comme ça sans expérience ». Donc ils m'ont offert la prothèse et m'ont pris parmi leur ambassadeur, mais on n'est qu'une petite poignée voilà, de privilégiés.
On l'avait mis en avant, nous, avec la team adaptive à l'UTMB, et l'énorme travail de Boris qui, justement, donne un accès et un regard au handicap sur des disciplines difficiles comme le trail. Parlons donc de ta pratique quotidienne. On l'a dit, beaucoup de marathons disputés l'an dernier. Cette prothèse pour la jambe, mais évidemment, tu ne fais rien par rapport à ton bras, donc j'imagine qu'il y a un souci d'équilibre en course à pied parce que tu dois pencher du côté droit plutôt que du côté gauche. Quelles sont tes problématiques? Comment tu adaptes ton corps à ta pratique? Comment tu travailles au quotidien pour être capable d'enchaîner les marathons?
Comme je disais, moi, je fais beaucoup de volume, voilà, c'est surtout les sorties semi, tout le temps. Voilà, je borne beaucoup, j'essaie de faire, chez nous au bassin, moi, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de bornes, mais beaucoup sur des longues lignes droites, tout ça, parce que au début, c'était surtout l'ennui, la longueur de la course du marathon qui me posait problème au bout d'un certain temps. Et donc, j'essaie de choisir des endroits pas très avec pas trop de virages, pas trop de choses comme ça, voilà, là où je travaille mon mental. Après, au niveau de l'équilibre, ça s'est fait un peu tout seul. C'est vrai qu'au début j'avais pas mal de problèmes de dos, mais mon corps s'est adapté avec le temps, voilà, et j'ai toujours ce décalage. J'ai pas redressé forcément au niveau de la ceinture, au niveau de la colonne vertébrale. Je suis toujours penché parce que ce côté gauche est complètement paralysé au niveau du bras et de la poitrine. Parce que avec la force de l'arrachage du véhicule, ça a complètement arraché tous les muscles de la poitrine. J'ai aucune possibilité de pouvoir contrer ce déséquilibre-là. Mais mon corps s'est adapté avec le temps. Voilà, c'est force de pratique. Je pense qu'il y a une sorte de gainage, quelque chose qui s'est fait au niveau de la ceinture.
Ah, il s'adapte.
Ça s'est très, très vite adapté. Après, je cours beaucoup au volume et puis au mental aussi. Voilà,
la force mentale, ouais.
Où est-ce que tu souffres sur un marathon, Nicolas? Qu'est-ce qui est dur?
Dur, c'est l'emboîture, parce que pareil, voilà, la lame de course. La lame de course, c'est un prix, mais il y a aussi le matériel avec, tout ce qui est les gaines en silicone qu'on met pour attacher et tout ça. Moi, j'ai du matériel, j'utilise mes gaines que j'utilise pour la marche, mais parce qu'autrement, c'est pas pris en charge là aussi encore. Et une simple gaine peut aller de 100, 250 euros, pour des entrées de gamme jusqu'à 500 euros, ça a très vite un coût. Et donc là où je souffre le plus, moi, c'est sur l'appui du moignon. Voilà, je finis souvent les marathons en sang à chaque fois. Donc c'est surtout là que c'est le plus difficile.
Est-ce que tu prends du plaisir dans ta pratique et sur une grande course comme ça, où il y a toujours un moment où la souffrance dépasse le plaisir?
Non, toujours, toujours beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est comme un enfant qui va voir un feu d'artifice le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Chaque fois que je vais là-bas, j'ai souvent des gens qui veulent faire des interviews ou des choses comme ça, la presse locale dans les alentours, et me disent toujours est-ce que vous avez un peu de pression avant, est-ce qu'on ne vous dérangera pas? J'ai fait le marathon au Luxembourg aussi, ils m'ont dit on pourra faire une interview au milieu du marathon, au milieu de la course, avoir votre avis, ça ne vous dérangera pas? Je dis non, pour moi c'est une fête, c'est un moment de célébration, de partage avec tout le monde, et je suis le plus heureux du monde à chaque fois quand je fais ça, et puis je fais des milliers de rencontres, chose que je faisais pas avant de pratiquer le sport. C'était très difficile de se faire de nouveaux amis, Et là, depuis que je commençais la course à pied, je le compte par milliers. Vraiment, donc pour moi, c'est toujours un bonheur, voilà, et puis une chance. Ouais, je suis reconnaissant. J'ai accompagné beaucoup de personnes jusqu'à leur dernier jour, malheureusement. Et donc, je cours à chaque fois pour eux, voilà, pour leur famille. Voilà, donc pour moi, c'est une victoire. C'est un symbole qui est fort pour moi. C'est ce qui m'aide à tenir. Donc, la douleur est vraiment minime pour moi. Elle existe, mais c'est
que du plaisir.
Elle est très vite oubliée. Ouais, il faut voir, je ne fais pas 50 mètres sans que quelqu'un me tape sur l'épaule, sans que le public crie. Donc, ouais, même les bénévoles sont toujours merveilleux à chaque fois quand ils me voient sur les courses. Je reçois vraiment un accueil.
La beauté du sport.
Je suis vraiment reconnaissant pour toute l'admiration qu'on peut me porter.
Enfin, ça prouve l'exemple que tu es aussi. Hein. Tu sais, t'es inspirant pour tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on
un bel ambassadeur. Ouais.
On a tous eu cette scène en course de dépasser une personne en situation de handicap et tout de suite de le féliciter ou de l'encourager. Et c'est vrai que c'est tellement un exemple de vie et de combat. On souffre tous sur la ligne de départ, mais vous encore un peu plus. Donc c'est dire le courage qu'il faut pour s'élancer.
Oui, et puis j'essaie, moi, sur les courses, justement, avec tout l'admiration que je reçois, j'essaie de le donner. C'est important pour moi de le faire aussi. Donc, c'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, c'est la mode de faire des marathons, même un 10 km, voilà, de se lancer dans une course et puis de ne pas en avoir forcément tout de suite l'expérience, comme moi, ça a pu être au départ. Donc, je vois beaucoup de personnes qui, dès les 10 premiers kilomètres, commencent à douter, commencent à marcher, traîner un peu la patte. Donc, à chaque fois, je prends le temps et je m'arrête et je leur tape sur l'épaule. Je leur dis, allez, vas-y, viens, on y va ensemble. Je t'assure que tu peux y arriver. Donc, on y va ensemble. Et parfois, ça m'arrive d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée avec 5-6 personnes à côté de moi qui pensaient avoir arrêté avant. Et puis, à quelques mètres avant la ligne d'arrivée, je leur dis « Allez-y, maintenant, c'est à vous. Allez-y tout seul, vous n'avez plus besoin de moi. » Et puis, pour moi, c'est un merveilleux cadeau que de pouvoir transmettre ça aussi aux personnes. Et puis après, je les revois, ils me disent « Oh, mais tu m'as montré que j'étais capable de beaucoup plus. » Mais je leur dis « Vous savez, moi, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, donc je sais où aller chercher cette force. » Le corps a des ressources insoupçonnées, donc il faut aller l'épuiser parfois.
Parlons des chronos, parce que les chronos ont baissé. Hein. On parlait de 6 heures sur le premier marathon, là on en est loin. Ouais. Avec des chronos plus que respectables, ça donne
combien
quoi alors?
Aujourd'hui, je suis à 3h42 sur le marathon.
C'est magnifique.
Ouais. En les enchaînant quand même parfois
tous les 11-12 par an.
Jours.
Et c'est une ambition personnelle? Enfin, t'as envie de faire baisser le chrono ou non? Ou c'est un peu anecdotique?
Non, je le fais au plaisir. Là, par exemple, quand j'ai fait je fais les marathons, j'ai fait le chemin de Compostelle aussi cet été. J'ai fait 1980 km là, pendant 2 mois et demi à travers Compostelle.
Ah oui.
De Vézelay à côté de Lyon jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, j'ai fait ça aussi. Je suis parti de Compostelle 24 heures avant. J'ai fait 24 heures de bus et je suis parti au marathon de Lyon 24 heures après.
Donc, c'est pas conseillé, ça, Johan, en
général. Non.
Non, mais j'ai une capacité de récupération qui est assez impressionnante, je pense. Oui, parfois, j'arrive à enchaîner 2 marathons en une semaine. Même moi, je m'étonne, mais j'écoute mon corps et j'y vais à mon rythme. Donc, c'est pour ça, le chrono, c'est pas forcément un objectif. Deux, trois fois comme ça dans l'année, j'essaye d'aller performer. Mais le but, c'est surtout de prendre du temps, de m'arrêter, discuter avec les bénévoles, les remercier d'être là, le public, quand je vois des personnes handicapées dans le public, aller leur serrer la main, les remercier d'être présents et puis accompagner un maximum de coureurs à passer la ligne d'arrivée pour que la fête soit encore plus belle. Voilà, donc c'est l'objectif du chrono, c'est un plus s'il vient, mais le but, c'est vraiment de célébrer et puis d'emmagasiner un maximum de souvenirs de chaque événement. Voilà.
C'est une consultation particulière, Johan, c'est une histoire de vie incroyable. Mais permettons tout de même à Nico de se servir et de bénéficier des conseils du maître Yodu. Est-ce que tu as des questions à poser à Johan, du coup, Nico, pour ta pratique, pour faire baisser le chrono encore? Est-ce que tu veux lui demander quelques trucs?
Moi, ce serait plus au niveau accompagnement. Comment je peux faire? Parce que c'est vrai qu'en début d'année, je courais, j'essayais de trouver des sponsors, des gens pour la communication, en fait, et pour faire passer ce message, justement, et trouver une marque qui serait intéressée pour, justement, porter ce combat à mes côtés, apporter une certaine visibilité à ce message qui, je pense, est essentiel. Et au niveau de la pratique, C'est vrai que j'ai jamais fait trop de fractionnés, de choses comme ça, de programmes spécifiques. Mais c'est plus au niveau de la communication. Voilà, je demanderai quelle est la meilleure façon de communiquer quand on fait du running pour pouvoir porter un message comme ça, comme le mien.
Bah, je trouve que l'histoire, elle est puissante, quoi. Elle est authentique. Bon, il y a le côté avec Pascal Obispo qui est quand même assez touchant et assez émouvant. Et je pense que du coup, effectivement, je pense que l'histoire, elle peut vraiment toucher le grand public. Après, c'est vrai que ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, c'est ce qui marche beaucoup, hein, c'est les réseaux sociaux. On le voit, que ce soit sur Instagram ou pas, c'est pour faire passer des messages. Les réseaux sociaux, c'est quand même assez puissant, et comme ton histoire, elle est quand même assez, et puis le message que tu as envie de faire passer, il est quand même assez précis et totalement, que ce soit sur cette prise en charge du matériel, l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap, ou le changement de regard, je pense que les marques doivent être touchées par ça, et passer par les réseaux sociaux en certainement créant un profil. Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire ou que tu n'aimes pas, c'est dur à faire. Mais le message, que ça soit sur Instagram ou autre, il y a moyen de faire passer justement ces messages. Je trouve que le surnom de l'homme de fer, là, c'est vraiment en s'appuyant là-dessus, parce que c'est vraiment un surnom qui te correspond. Et justement, parce qu'il y a ce côté force mentale, résilience assez dingue, performance aussi derrière, parce que enchaîner 12 marathons dans l'année, c'est pas rien non plus, surtout en situation de handicap. Donc ouais, avoir un discours assez clair, être bien positionné en tant que athlète qui souhaite porter ce regard et avoir une parole tout à fait crédible, avec des valeurs, avec une visibilité, peut-être que passer par les réseaux sociaux plutôt que par les médias traditionnels, qui souvent te disent oui, on vous rappelle ou on fait un petit article, mais derrière pousse pas suffisamment le contenu. Ça va pas toucher suffisamment peut-être le grand public, alors que les réseaux sociaux aujourd'hui, sur des formats très courts, en 30 secondes, ça peut très vite buzzer, et tu peux très vite devenir un modèle assez inspirant et
je pense que Johan a raison. Ça, c'est peut-être limite plus notre domaine à nous en tant que journaliste qu'à Johan en tant qu'athlète, même si Johan maîtrise certainement mieux les réseaux sociaux que nous. Moi, je pense que c'est la bonne réponse à apporter, Nico. Et nous, on va faire des actions concrètes. C'est-à-dire que nous, on va pousser ton histoire avec les réseaux sociaux d'RMC Running et d'RMC Sport. Donc moi, je m'y engage et on le fera. La clé, elle est là. Elle est de comment tu racontes l'histoire, comment tu racontes le combat quotidien, et comment tu inspires les personnes qui sont dans la même situation que toi. Et nous, on en revient toujours à cette histoire. Pourquoi on fait ce podcast? Pourquoi on ouvre comme ça de nouveaux concepts? Pourquoi on accompagne des gens sur la longueur? Et pourquoi on met en avant des coureurs anonymes, entre guillemets? C'est pour inspirer, c'est pour fédérer, et c'est pour prouver qu'on a tous la même passion, qui est donc la pratique du sport. Et quelle que soit son histoire personnelle, qu'on ait traversé des drames ou pas, qu'on ait des situations difficiles ou pas, et ben on peut tous se réunir autour de ça. Donc nous, concrètement, ce qu'on peut faire pour toi, et je te le dis, je vais m'y engager, c'est qu'on va te mettre en contact aussi avec Boris Girardi, je l'ai dit, qui est très engagé sur cette cause, qui a un peu la même histoire que toi, parce qu'il avait eu un accident de moto qui l'avait handicapé, et qui ensuite a monté cette team adaptive avec Salomon. C'est pour ça que je voulais te dire ça. Ouais. Salomon, qui est très engagé sur justement toutes ces questions de handicap et de la pratique sportive et du running et du trail. Donc nous, on va te mettre en contact avec lui. Moi, je vous parle en deux secondes de mon histoire personnelle. Moi, j'ai une personne de mon entourage qui a été victime comme ça d'un sacré accident de la vie, donc qui est resté 6 mois à l'hôpital militaire de Percy. Donc l'hôpital de Percy, c'est les militaires blessés en mission, ou c'est les gros accidents de la route, que tu dois connaître d'ailleurs, Nicolas. Et on peut certifier, parce que moi j'y ai assisté, à quel point les séances de sport pour ces gens-là sont importantes pour recréer de la cohésion, du lien et donner de l'espoir. Donc oui, c'est important comme ça de mettre en avant ces histoires-là et de les mettre en image. Donc il faudra bien les mettre en image correctement. Et je pense que c'est là-dessus que tu peux travailler. Et rapidement, ça va intéresser des marques qui vont te soutenir là-dedans. Donc nous, l'action concrète qu'on peut faire, c'est te mettre en rapport avec Boris, qui lui va pousser certainement auprès de Salomon. Mais c'est aussi à toi de faire l'effort, qui est difficile, je le sais, parce que nous, on a du mal à le faire.
Mais c'est ce que j'essaie de faire.
De montrer un peu ce que ça représente ton quotidien. Il n'y a rien de plus fort que l'image, en fait. Donc une fois que tu auras montré ce que ça représente... Voilà.
Des fois, j'ai rencontré aussi des militaires de guerre, qui ont explosé malheureusement à cause des mines ou des choses comme ça. J'essaie de faire des conférences dans les universités pour inspirer les jeunes et puis sensibiliser aussi au danger de la route, la sécurité routière, mais aussi à l'importance de la pratique sportive, l'inclusion des autres, pas juger la différence. Donc je m'engage pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau réseaux sociaux, Je me limite juste à publier un petit peu les performances et tout ça, mais...
Alors que si tu filmes des séances quotidiennes, la façon dont tu t'entraînes, comment tu t'équipes, comment tu y vas, et même jusqu'à l'aboutissement d'une course avec comment tu la vis de A à Z, avec du montage et tout, là, ça donnera beaucoup plus de force à ton message.
L'histoire est puissante, hein. La reconstruction par le sport et tout, je pense qu'il y a moyen de toucher vraiment le grand public. Parce que c'est vrai que pour aller sur les institutions, les politiques et tout, c'est souvent... ils te disent, ouais, ça nous plaît, on fait ça, mais...
Et dès que tu auras de la médiatisation, ça te donnera du poids. Le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, la différence...
Tu peux partir de rien et...
Voilà, c'est ça. Un média traditionnel, il va s'intéresser à ton histoire, il va la raconter en one shot, et après il passera à autre chose. Et l'année d'après, il racontera une autre histoire, parce que le modèle est fait comme ça. Alors que toi, tu es responsable et tu es acteur majeur de ton réseau, donc c'est toi qui vas gérer et raconter ton histoire. Et ce sera la force que tu dois mettre en place. Ça demande du temps, de l'investissement, mais c'est là-dessus que tu pourras avancer, je pense, et inspirer les autres. Voilà.
Ouais, d'accord. Eh bien, merci en tout cas.
Déjà, avec tous les auditeurs d'RMC Running.
Voilà, exactement.
Ouais. Et
allez le soutenir, donc Nicolas, qui était avec nous aujourd'hui. Une sacrée histoire de vie, Nicolas Lacambre. Et d'ailleurs, on a un bout de la chanson avec Pascal Obispo. Voilà ce que ça donne.
Me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits.
Et voilà, on n'est pas seul. Et la communauté RMC Running, je vous invite tous donc à soutenir Nicolas, son combat, sa problématique et surtout son message d'espoir pour les autres personnes en situation de handicap. Son compte Instagram, c'est l'homme de fer. Donc allez le suivre. Nous, on va essayer de pousser concrètement avec des bons contacts à privilégier, Nicolas. Mais on te remercie beaucoup pour cette histoire inspirante que tu es venu raconter.
C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. C'était un honneur de pouvoir.
Bravo à toi.
C'était un plaisir.
Et merci Johan en tout cas pour tous ces beaux messages et l'inspiration que tu nous donnes sur les réseaux sociaux.
Et allez les Girondins.
Allez Bordeaux, oui.
Exactement. Merci Nicolas en tout cas.
Merci.
Bonne journée à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et toujours ce conseil pour terminer, docteur Yodu. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.